Donc, merci à Jean-Marie de me donner l'opportunité de présenter notre technologie et les applications qui vont avec. Je n'irai pas dans l'électrochimie en détail, j'en serai pas d'ailleurs capable. Et si vous avez besoin d'explications, vous avez Jean-Marie qui pourrait y répondre de façon beaucoup plus efficace que moi. Ce que je voudrais simplement vous expliquer, c'est notre choix technologique, comment on a réussi à faire des batteries pour un domaine qui est un domaine difficile, qui est l'automobile. Il faut savoir que dans l'automobile, on demande aux batteries beaucoup de choses. On demande un prix, première chose, qui est difficile quand on est industriel, mais on demande aussi beaucoup de sécurité, parce que bon, ce qui s'est passé avec les batteries Galaxy, c'est déjà une catastrophe au niveau d'un téléphone portable, mais vous imaginez la même chose au niveau d'une voiture, ça serait vraiment encore plus catastrophique. Et donc là, vous pourriez avoir des morts dans les véhicules. Donc la sécurité est un point important et on a travaillé beaucoup là-dessus. Ensuite, on va demander dans une voiture à avoir une capacité, parce que c'est le nombre de kilomètres qu'on va pouvoir faire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est aussi une question importante. On essaie de doubler la capacité pour donner aux utilisateurs un nombre de kilomètres qui soit adéquat, et pour lequel l'utilisateur est prêt à faire le pas vers le véhicule électrique. On va lui demander aussi de la puissance, parce que c'est une question de sécurité. Il faut que la performance du véhicule soit la même en dépassement. Quand vous faites un appel de puissance, quel que soit l'état de charge de la batterie, vous devez avoir la même réponse, ce qui est facile avec un moteur thermique, ce qui est un petit peu plus difficile lorsque vous avez une batterie. Et puis, on va lui demander aussi de faire un nombre de cycles important, un peu plus important que ce que vous allez faire avec votre téléphone, parce qu'on va lui demander quelques centaines de milliers de kilomètres, ça veut dire quelques milliers de cycles. Et puis, au-delà de ça, on va lui demander aussi d'être indépendant de la température, c'est-à-dire qu'il fasse moins 20 dehors si vous êtes au Canada ou qu'il fasse plus 40 quand vous êtes à Singapour, le véhicule devra répondre dans les mêmes conditions. Donc, on voit que pour la batterie, il y a là des difficultés importantes. C'est vrai qu'une batterie de véhicule, c'est une batterie qui est un produit un peu plus sophistiqué qu'une batterie de téléphone, qui va nécessiter une intégration d'un certain nombre de capteurs pour suivre son état de santé, et puis d'électronique pour pouvoir la piloter au mieux dans sa durée de vie. Donc on va aller vers ces applications, et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait dans notre cas. En quelques mots, le groupe Bolloré, qui est un groupe entrepreneurial, puisque notre patron, c'est Vincent Bolloré, c'est la sixième génération, on a été créé en 1822 en Bretagne. Et on est présent dans beaucoup de pays avec trois activités essentiellement. Grosse activité dans le transport et la logistique. Transport et logistique, c'est comment transporter n'importe quoi, en particulier une usine ou des produits miniers, d'un point à un autre et s'assurer de l'ensemble de ces opérations. On a en particulier une forte présence en Afrique. Et j'y reviendrai parce que ça nous a donné aussi l'occasion d'aller regarder d'un peu plus près les problèmes de production d'énergie et de nécessité d'investissement dans ces régions-là. Le deuxième pôle, c'est un pôle de communication avec Havas. Et le troisième pôle, qui est le pôle sur lequel je vais m'attarder, c'est donc le pôle de stockage d'énergie et des solutions. C'est un savoir-faire que l'on a depuis très longtemps dans le groupe. Puisque le groupe, au départ, a fait des papiers fins, et ces papiers fins ont été utilisés dans les condensateurs, et on a été le premier à faire le virage de l'utilisation des polymères dans les condensateurs, pour servir de membrane dans les condensateurs, et en particulier, on a développé donc des technologies de fabrication de films, des films fins, puisque c'est des films qui descendent jusqu'à 3 microns à base de polypropylène. Ces films sont métallisés et bobinés pour donner ensemble après des condensateurs. Et dans ce domaine, on était un leader mondial et on a eu donc un certain nombre de contacts importants avec des donneurs d'ordre, comme l'EDF, et avec des acteurs majeurs dans le domaine, comme Schneider, comme ABB. Et c'est ce qui a donné lieu à un programme de recherche portant sur les batteries et les supercondensateurs qui a démarré dans les années 92-95 avec donc EDF et le CEA. EDF, étant l'acteur qui avait choisi la technologie au niveau de l'électrochimie, et puis nous, on était là pour, à l'époque, faire des films, et le CEA travaillait sur les matériaux. Donc ce projet a démarré il y a un peu plus de 20 ans, avec deux axes majeurs. L'objectif d'EDF à l'époque, c'était déjà un peu les véhicules électriques, parce qu'on avait quelques véhicules électriques qui fonctionnaient avec des batteries nickel-cadmium, et c'était aussi l'intégration des batteries dans la domotique. Donc il y avait un intérêt à développer des stockeurs d'énergie qui étaient plus performants que ce qui existait aussi. Et puis les supercapacités, c'est un autre stockeur d'énergie qui est un petit peu différent d'une batterie. C'est un stockeur d'énergie qui stocke moins d'énergie, mais qui est capable de délivrer beaucoup plus de puissance avec un nombre de cycles qui est important. C'est à base, la technologie qu'on a développée est une technologie à base de carbone-carbone. Et donc, ces projets ont démarré il y a une vingtaine d'années, s'appuyant sur donc un choix de technologie une technologie qui avait été développée d'ailleurs en France tout au début, qui avait été développée par ELF. ELF l'avait vendue à Hydro-Québec, qui est l'EDF du Québec. Hydro-Québec avait monté un projet avec 3M. 3M, tout le monde le connaît pour un certain nombre de ses produits grand public, dont le post-it ou d'autres domaines. Mais c'est un fabricant de films qui fait des films techniques dans tous les métiers, avec une très grande technicité. Et donc, ils avaient, à l'époque, développé la fabrication de la demi-pile qui consistait le film de cathode et le film d'électrolyte. Et ce projet, qui avait donc été porté par la France, avait été développé au Canada et avait été financé largement par le gouvernement américain, par les constructeurs automobiles américains et par l'ODOE, fin des années 90. Et donc, nous avions retenu la même technologie avec quelques difficultés à mettre au point certaines technologies, recherches, parce qu'il y avait à l'époque beaucoup de brevets qui avaient été développés par notre concurrent qui s'appelait Avestor. Et dans l'histoire, en 2006, Avestor avait signé un très très gros contrat, donc avec des batteries de la même technologie que la nôtre, avec un très très gros contrat avec AT&T pour fabriquer des batteries dans le domaine des télécoms, pour le backup des sous-stations, et n'a jamais réussi à faire un produit qui commercialement a été viable, donc a décidé de mettre la clé sous la porte parce qu'il perdait en gros 4 millions de dollars par mois. Donc ça, c'était fin 2006, et en 2007, nous avons fait une proposition pour racheter cette activité. Et donc, nous avons racheté l'activité d'Avestor avec les brevets et l'usine au Canada. Et à partir du savoir-faire d'Avestor, qui portait surtout sur la fabrication du lithium et sur le packaging, et à partir de notre savoir-faire dans la fabrication des films, eh bien, nous avons fait le produit qui aujourd'hui est utilisé dans les véhicules. Je vous raconte un petit peu l'histoire pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu de ce que nous faisons et comment nous avons évolué dans le temps. Alors, maintenant, on va venir sur la technologie telle qu'on l'a arrêtée aujourd'hui. Donc, c'est une technologie qui est à base de films. Et ce sont des produits d'extrusion. On fait tous ces produits par extrusion. Et on va voir un petit peu comment on fabrique chacun de ces films différents. Enfin, peut-être, on va voir si personne ne reste pas devant le... Voilà. Donc, on a une batterie qui est une batterie tout solide, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solvant organique dans notre batterie. Elle est constituée donc d'un collecteur de courant qui est en aluminium, sur lequel on va venir déposer un film de cathode qui est à base de phosphate de fer et de polymère, qu'on va obtenir par extrusion. On va fabriquer par ailleurs un autre film qui est l'anode, qui est du lithium métallique. Donc on va partir de lingots de lithium que l'on va laminer pour obtenir des épaisseurs très fines. Et on va fabriquer un dernier film par extrusion aussi, qui est donc l'électrolyte, qui est un polymère dans lequel on a inséré un sel de lithium. Alors chacun de ces films, comment les fabrique-t-on ? Alors l'électrolyte, donc c'est le sel de lithium que l'on utilise dans notre cas, c'est un LiTFSI. Et il faut que notre objectif à travers le... Alors, le procédé d'extrusion, c'est mélanger de la matière mécaniquement et en température. Et l'objectif, c'est d'obtenir un film le plus homogène possible et d'obtenir un réseau co-continu et très homogène pour la conductivité et la résistance mécanique. Donc ce film sert de séparateur, bien sûr, et de conduction pour les ions. Il faut qu'il ait une forte conductivité et bien sûr qu'il soit sans trou. Pour vous donner un ordre de grandeur des épaisseurs de ces films, on fait des films qui sont entre 10 et 20 microns, hein, sachant qu'un cheveu, c'est à peu près 60 microns. Et donc on fait ces films en grande largeur, puisqu'on fait des éléments en grande largeur, et on fait ces films en continu. Le deuxième film que l'on fabrique par extrusion, donc c'est le même procédé, mais évidemment, on n'utilise pas les mêmes matières. On utilise en matière active du LiFePE4, du phosphate de fer lithié. Donc, on a un conducteur électronique et on a un conducteur ionique. On essaie évidemment de mettre le taux de matière active le plus haut possible. Ça veut dire qu'on mélange des taux qui sont très élevés, hein, plus de entre 70 et 80% de matière active, donc le minimum de polymère, qui est le liant, pour obtenir une dispersion du matériau actif qui soit homogène, le plus haut niveau de charge. Bien sûr, on essaie d'éviter la porosité et l'état de surface homogène, qui va nous permettre de garantir une cyclabilité dans le temps. On fabrique ensuite l'électrode négative, qui est donc un film de lithium. Alors, le film de cathode, lui, fait entre, on va dire, entre 40 et 60 microns d'épaisseur. C'est en fait la capacité de la batterie. C'est pour ça qu'on a des variations d'épaisseur, parce que suivant les domaines dans lesquels on va produire nos batteries, on peut avoir des différences d'épaisseur pour soit privilégier la capacité, soit privilégier la puissance, soit privilégier le cyclage. L'électrode négative, c'est donc un film de lithium qui est obtenu par extrusion. Donc on reçoit des lingots de lithium qui sont obtenus à partir de carbonate de lithium ou de chlore de lithium par électrolyse. Et on va extruder ces films à des épaisseurs qui sont de l'ordre de 30 à 50 microns. Donc là, c'est aussi un procédé qui est extrêmement compliqué parce que le lithium, c'est un matériau qui colle à tout métal. Et donc, pour l'extruder, il faut avoir des procédés très spécifiques. On va chercher à avoir une épaisseur qui a un profil qui est évidemment optimum et une homogénéité et un état de surface. Donc pour chacun de ces films, que l'on fait en gros entre 10 microns et 60 microns, l'état de surface est fondamental et la variation d'épaisseur sur l'ensemble du film est aussi un critère très important. Donc on doit être avec des profils d'épaisseur qui sont inférieurs à 5% sur toute la largeur du film. Que fait-on après ? On fait une cellule élémentaire, c'est-à-dire que, en fait, dans notre procédé d'extrusion, on va déposer la cathode sur le collecteur. Donc on va déposer de chaque côté de la cathode, du collecteur un film de cathode, et sur chaque phase de cathode, on va ensuite déposer un film d'électrolyte. Donc on va faire ce qu'on appelle un pentacouche, hein, qui est un film collecteur cathode électrolyte de chaque côté. Et puis on va donc l'empiler avec un film de lithium pour nous donner une batterie élémentaire. Et on va donc empiler un nombre de batteries élémentaires suffisant pour nous donner la capacité souhaitée. Ces films, ces éléments aujourd'hui qu'on fait, pour vous donner un ordre de grandeur des dimensions, font 600 mm de long, 150 mm de large. Et donc ce ne sont pas des petits éléments, hein, c'est des éléments à peu près grands comme ça. Et donc l'élément complet, lui, fait 1 cm d'épaisseur. Donc c'est une cellule élémentaire. Et cette cellule élémentaire, on va la connecter en série dans un module. On va connecter 20 de ces cellules élémentaires dans un module. Chaque cellule est suivie en tension, en température. Et on a une carte électronique avec devant le module que vous pouvez voir ici, qui nous permet de transmettre un certain nombre d'informations vers une électronique un peu plus sophistiquée au niveau du pack. Donc dans un pack, on va connecter 6 modules en série. Donc dans une de nos batteries de voiture, j'ai pris un exemple de la voiture, hein, dans la voiture, on a 120 éléments en série. Donc on est aux alentours de 410 volts en tension. Et une batterie de ce type-là fait à peu près, aujourd'hui, 36 kWh. Le pack étant complet, quand on parle de... Il faut savoir que dans un pack de voitures de ce type-là, l'électrochimie représente à peu près 50% du poids. On a un emballage qui est forcément un emballage qui a une résistance mécanique. On a une connectique qui est aussi qui pèse relativement lourd puisque on est à haute tension et des forts courants hein, puisqu'on doit pouvoir passer de l'ordre de 200 ampères pour avoir suffisamment de puissance au niveau de la batterie. Et puis on a une partie électronique. Alors la partie qu'on voit devant ici, qui est la partie qu'on appelle Battery Management System, hein, en bon français, donc qui est un microcontrôleur qui permet de suivre la durée, suivre la vie de la batterie et transmettre des informations vers le monde extérieur à travers un bus CAN. Donc on transmet l'état de charge de la batterie, on transmet l'état de santé de la batterie, etc. Et on transmet aussi bien sûr des alarmes sur des éléments s'il y a certaines alarmes qui apparaissent sur ces éléments. C'est très important d'avoir le suivi de cet état de santé pour que la batterie puisse durer dans le temps. Et on a un contrôle au niveau de chaque cellule, ce qui fait qu'on peut aussi limiter les appels de puissance sur un certain nombre de cellules. Donc, quelles sont les performances aujourd'hui de ce pack ? Alors, quand je parle d'un pack, c'est vraiment quelque chose qui est plug and play. Hein. Vous pouvez le mettre dans une voiture, vous n'avez rien besoin d'autre. Alors, au niveau d'un pack complet, on est de l'ordre de 120 Wh par kilo aujourd'hui. Et dans les 18 mois à venir, on devrait pouvoir atteindre assez facilement 150 Wh par kilo. C'est faire la chasse à certains kilos superflus, par exemple, au niveau des emballages ou certaines épaisseurs de film. La durée de vie, c'est aujourd'hui plusieurs milliers de cycles à des profondeurs de décharge qui sont importantes. Dans le cadre d'Autolib, où on a aujourd'hui 4000 voitures, dont certaines tournent depuis plus de 5 ans. On n'a pas changé une seule batterie. On est en train de changer aujourd'hui les voitures, parce que les voitures ont plus souffert que les batteries. Donc, on récupère aujourd'hui les batteries et les chaînes de traction de ces véhicules-là pour les mettre dans des véhicules neufs. Donc, aujourd'hui, on n'a pas du tout de visibilité, on va dire, sur la mort de ces batteries dans des applications de type Autolib. Alors, une application de type Autolib, c'est une application avec des décharges qui ne sont pas forcément des décharges profondes, puisque nos clients font, on reviendra dessus, font plutôt 10 km, et puis après, on recharge le véhicule. Mais c'est quand même assez intéressant. D'autre part, on n'a pas de perte de capacité sur ces batteries, puisqu'on a testé les batteries qui sont revenues de ces 5 ans d'exploitation et elles ont toujours 100% de leur capacité initiale. Et le fait d'être tout solide donne d'excellents résultats en matière de sécurité. Et là, on a malheureusement un champ d'expérimentation qui est Paris. Aujourd'hui, on nous a brûlé 80 voitures. Que ce soit le 1er janvier, que ce soit manifestation, que ce soit les Aulnay-sous-Bois, etc. Et donc, dans ces 80 véhicules qui ont brûlé, on n'a aucune batterie qui a brûlé. C'est-à-dire que le véhicule brûle, parce que c'est assez facile de mettre le feu à une voiture aujourd'hui. Vous n'avez qu'à en discuter avec les pompiers, vous verrez. Mais dans aucun cas, la batterie elle-même a brûlé. Donc, on récupère en gros l'infrastructure du véhicule, qui est en acier, et la batterie. Donc, ce qui est plutôt un élément intéressant en termes de sécurité. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on apprécie qu'on nous fasse brûler nos voitures, mais voilà, c'est malheureusement ce qui peut arriver en France. Donc, dans les conditions extrêmes, on a aussi des gens qui nous ont mis des voitures sur le toit. Pourtant, on a des batteries qui sont dans le plancher, donc avec une stabilité quand même importante. Mais il faut voir qu'à Paris, il y a des conducteurs qui ne manquent pas d'imagination. Donc on a eu pas mal d'accidents et jamais, dans aucun cas, il y a une batterie qui a brûlé. Ce qui est quand même un point important en termes de sécurité. Alors, ces batteries fonctionnent, en revanche, en cas de percement de la batterie, il n'y a pas non plus d'emballement, puisque le polymère va cicatriser. La contrepartie de ces éléments-là, c'est un fonctionnement en température, aujourd'hui, entre 60 et 70 degrés. Donc, pour que la batterie ait cette performance, équivalente en gros à une batterie de type lithium-ion, on doit fonctionner à une température qui est de 60 à 70 degrés. On travaille sur ce sujet pour essayer de limiter cette température, mais bon, ce n'est pas encore gagné. On a aujourd'hui un outil de production qui est deux usines, donc une usine en France et une usine au Canada, qui sont aujourd'hui toutes les deux en accroissement de capacité. Aujourd'hui, on est capable de faire une capacité de l'ordre de 500 MWh et en 2019-2020, on devrait atteindre le 1,5 GWh. Alors, on est quand même tout petit par rapport à notre ami Elon Musk qui, lui, ne vise rien moins que 35 GWh dans une de ses usines. Mais bon, on n'a pas les mêmes moyens. Alors, dans la réflexion qu'on a, je pense qu'il est important de voir la batterie comme un produit qui va vivre et qui peut vivre plusieurs vies. Donc la première vie, c'est un besoin de performance, d'autonomie, c'est plutôt dans les applications mobiles, et de récupérer ensuite ces produits, une fois peut-être qu'ils seront dégradés en termes de capacité ou de puissance, dans d'autres applications qui sont moins exigeantes, puisque ces batteries auront encore des capacités qui seront nettement supérieures à celles du plomb, même si elles n'en ont plus que 80%. Et n'oubliez pas qu'elles ont aussi une électronique qui en fait des produits intéressants que l'on peut monitorer de loin et suivre donc avec une électronique de haute performance. Et bien sûr, la troisième vie de la batterie, c'est d'ailleurs une nécessité, c'est le recyclage. Aujourd'hui, lorsque vous faites un accumulateur, vous avez une obligation de recycler cette batterie à 50%. Et dans l'automobile, vous avez une obligation de recycler l'automobile à 95%. Donc il est certain qu'on va monter aujourd'hui le taux de recyclage des batteries dans l'automobile. Et puis de toute façon, il est important d'être capable de récupérer un certain nombre des matériaux qui sont des matériaux clés, comme le lithium que l'on utilise dans ces batteries. Les applications maintenant, après vous avoir un peu parlé des technologies, je voudrais donc... bien sûr, bon, les moteurs importants de ces applications, c'est les problèmes de pollution. Hein. Aujourd'hui, on est à plus de 400 ppm par an de taux de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il y a de nombreuses villes qui ont des problèmes de transport. Là, c'est une photo de Pékin. Pékin, c'est vraiment l'ultime. Mais même à Paris, on voit qu'on a de la circulation alternée et on voit qu'on a de plus en plus un problème. Donc, derrière... des développements de transport qui seront propres. Le deuxième sujet, c'est que ces problèmes seront liés aussi à l'accroissement des villes. On va avoir de plus en plus de villes qui vont dépasser les 10 millions d'habitants. Et donc, le problème de transport dans ces villes va être aussi critique. Le dernier point, c'est que la voiture, c'est quand même le plus mauvais des investissements, hein. Vous savez combien une voiture est utilisée en moyenne ? Elle est utilisée 4% de son temps. Donc si vous demandez à un industriel d'investir une usine qui utilisera 4% de son temps, je peux vous dire qu'il ne va jamais le faire. Et pourtant, c'est ce que l'on fait tous les uns et les autres quand on achète une voiture. Donc on va aller vers des véhicules autonomes, on va aller vers des véhicules partagés parce qu'il est important, je pense, de faire une meilleure utilisation de ces véhicules. Et donc on va avoir un développement important, on le voit déjà, de l'autopartage, et lorsque le véhicule deviendra le véhicule autonome, ces solutions vont encore plus se développer. Le bus électrique, c'est aussi un marché qui a une forte croissance. Je prends l'exemple de deux villes assez emblématiques. Paris a annoncé que d'ici 2025, tous ses bus seront des bus propres, dont 80% de bus électriques. Paris, c'est 4500 bus. Singapour, qui a 6000 bus, a pris exactement le même chemin, doit remplacer tous ses bus d'ici 2025 en bus électriques. Donc on va avoir à la fois l'autopartage dans les villes et le transport propre à travers des moyens de transport public qui vont se développer, tels que des bus électriques. Donc l'utilisation des batteries. On a aussi l'utilisation des batteries dans d'autres domaines, une demande croissante en énergie renouvelable, un petit peu partout. Vous savez que l'énergie renouvelable est prioritaire quand elle arrive sur le réseau. En revanche, quand elle arrive sur le réseau, elle a une certaine intermittence et donc il y a une perturbation sur le réseau. Lorsque le taux d'énergie renouvelable est relativement faible, c'est le réseau qui va servir de tampon. Donc on ne va pas avoir de problème de variation de fréquence au niveau du réseau. Lorsque vous allez atteindre des taux de renouvelables qui vont être élevés, ça va causer un véritable problème sur le réseau. Et des pays comme le Japon, par exemple, après Fukushima, donc l'arrêt complet du nucléaire, le Japon a beaucoup investi à la fois dans le gaz et dans le solaire. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir un projet solaire qui est accepté en termes de financement, il faut que la puissance que vous sortez de ce solaire soit dans une variabilité qui est très faible. Et pour avoir cette variabilité faible, il faut que vous adossiez le solaire avec des batteries qui permettront de filtrer et permettront donc d'avoir une puissance continue lorsque vous rentrez sur le réseau. Donc on voit que de plus en plus de ces projets vont nécessiter des batteries dans le futur. Les solutions Smart Grid, donc bien sûr, je viens d'en parler, donc on reviendra un petit peu plus après sur des détails. Donc c'est un potentiel de croissance fort dans ces différents métiers pour nous. Alors comment se positionne-t-on ? Alors dans la mobilité, l'histoire, c'est que on avait travaillé, donc, dans les années 2000, on a été voir tous les constructeurs automobiles ou presque, et il n'y avait pas beaucoup qui étaient intéressés par le véhicule électrique. Nous a donné la batterie et puis on reviendra dans 2-3 ans, on verra, on la testera si elle est complètement sûre, si elle a de bonnes performances, si elle coûte pas cher, peut-être qu'on fera une voiture électrique. Donc, n'ayant pas trouvé un partenaire pour développer un véhicule électrique, eh bien, on a décidé de le développer nous-mêmes et on a fait notre première Blue Car. L'objectif étant de faire un concept plus qu'une voiture. Et en 2007, on a fait une joint venture avec Pininfarina. L'objectif était à l'époque de faire une petite une voiture de style Tesla, mais en plus petit, pour l'Europe, avec Pininfarina. Et puis, en travaillant sur ce projet, en 2010, on a répondu à l'appel d'offres de la ville de Paris. La ville de Paris a eu l'idée de développer un projet identique au Vélib, mais avec des voitures. C'est pour ça que ça s'appelle Autolib. Et l'objectif, c'était donc d'avoir des véhicules électriques pour un projet d'autopartage. Alors, donc, véhicules électriques. Et là, c'était une première à l'époque pour un service de mobilité en trace directe. La trace directe, ça veut dire que vous prenez votre véhicule à un point A et vous la rendez au point B. Aujourd'hui, lorsque vous louez une voiture chez Hertz ou chez Avis, vous la prenez au point A, vous la ramenez au point A. Donc là, l'idée, c'était donc de permettre à l'utilisateur de le laisser au point B et ce véhicule étant repris au point B par un autre utilisateur. Et cela, c'était à base donc, de stations, comme les stations que vous pouvez voir dans la rue, connectées au transport public, avec une solution dans sa globalité. Alors, si vous voulez, dans l'histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc signé ce projet après mûre réflexion le 26 février 2011 au niveau du groupe et on devait démarrer commercialement le 5 novembre 2011. Donc on avait moins d'un an pour développer toute cette solution. Donc notre patron a décidé de prendre le projet en tant que chef de projet et moi je me suis occupé de toute la partie technique. J'ai piloté l'ensemble de la partie technique de ce projet avec toutes les technologies qui ont été développées en interne. Donc avec des technologies, à la fois, on avait la batterie, on avait la voiture, qui n'était pas encore homologuée à l'époque, et il fallait donc développer tout ce qui était infrastructure, donc infrastructure de charge, et aussi infrastructure de location et d'abonnement. Et comme on avait une délégation de services publics, on devait être capable d'abonner n'importe quel client, même s'il n'avait pas de téléphone portable ou s'il n'avait pas Internet. C'est pour ça que vous avez des stations d'abonnement dans lesquelles vous rentrez. Et si vous avez uniquement votre permis de conduire et un carnet de chèques avec un RIB, vous pouvez avoir aussi une carte Autolib. Et si le lendemain de vos 18 ans, vous avez un permis de conduire, vous pouvez aussi prendre une carte et prendre une voiture. Donc ce service, c'est un service qui est ouvert à tous avec une simplicité d'usage. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que la plupart de nos utilisateurs utilisent leur téléphone portable pour réserver les voitures et pour les utiliser. Mais si vous voulez, dans le cadre du projet, le projet devait être ouvert à tous. Donc on a développé toute cette infrastructure et on a aussi développé tout ce qui était le cœur du système, c'est-à-dire l'informatique qui gère toutes les informations. Donc les informations venant du véhicule, bien sûr, Mais les informations aussi venant de votre téléphone, il y a un bouton dans la voiture où vous pouvez appeler, venant de n'importe quel... on a aussi des gens sur le terrain qui font partie du système, donc on a aussi des informations qui peuvent venir de ces gens. Et on gère tout cela à partir d'un centre d'appel qui est donc dans la région parisienne à Vaucresson. Alors, je vous ai présenté ici un exemple de station, mais je pense que ceux qui vivent à Paris voient des stations, puisque aujourd'hui on en a plus de 500 à Paris, et on en a en tout 1100. Donc ça consiste en fait en une borne d'abonnement qui vous permet d'avoir votre carte, une borne de location qui vous permet d'avoir votre véhicule une fois que vous avez votre carte, et une borne de charge. Et lorsque vous prenez une voiture, vous déconnectez de la borne de charge. C'est à ce moment-là que commence votre location, et lorsque vous vous reconnectez à la borne de charge, c'est à ce moment-là que cesse votre location et votre facturation. Les clients sont facturés à la minute de temps utilisé, et ça coûte 20 centimes d'euros par minute, ce qui n'est pas cher. Vous avez une application, vous êtes toujours connecté, c'est-à-dire que vous avez une application sur votre téléphone portable qui vous permet, avec un clic, de réserver la voiture qui est la plus proche et de réserver la place qui est la plus proche de l'endroit où vous allez, simplement en indiquant au système où vous voulez aller. Et c'est pour ceux qui l'utilisent, moi je suis un client, je n'ai pas de voiture quand je suis à Paris, j'ai donc une utilisation d'Autolib intensive, et c'est très très facile d'utilisation, et je trouve très convivial. Les seuls problèmes qu'aujourd'hui on peut avoir, on va dire, c'est à mon avis la propreté des véhicules, parce que malheureusement les gens sont pas forcément très, ils font pas forcément très attention au bien public, malheureusement. Mais ça, on n'y peut pas grand chose. Alors, pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur des résultats, d'abord ça a été pour nous un test en vraie grandeur de nos batteries, puisque les batteries sont prises par, les voitures sont prises par tout le monde qui peut circuler autant de kilomètres qu'il veut. On n'a jamais eu un retour d'un client sur le problème d'autonomie. Jamais un client n'a été en panne sur l'autonomie. Alors on a démarré donc en décembre 2011 avec 250 véhicules, et aujourd'hui, un peu plus de 5 ans après, on a 4000 voitures, on a 11 sensations et 6500 points de charge qui couvrent Paris et la région parisienne, puisqu'on descend jusqu'à Limeil-Brévannes et on va à l'ouest jusqu'à Versailles. On a donc fait, depuis cette époque-là, plus de 19 millions de locations, ce qui représente plus de 190 millions de kilomètres, sans aucun incident lié aux batteries. Alors, on a eu quelques accidents, en revanche, comme je vous l'ai mentionné, mais aucun accident lié aux batteries. On a donc aujourd'hui, ça c'était en janvier, on a 130 000 abonnés à l'année, donc des gens qui ont un abonnement avec une carte à l'année qui utilisent régulièrement le service. Et depuis le démarrage, on a eu plus de 300 000 clients différents, donc des gens qui ont testé le service, qui ont pris le véhicule électrique au moins une fois. C'est intéressant parce que ça au-delà du succès technologique de la batterie, au-delà du succès commercial, ce qui est important, c'est, je pense, le succès sociétal. C'est-à-dire qu'on a changé un peu l'esprit des gens vis-à-vis du véhicule, et que partager un véhicule aujourd'hui peut faire partie des choses qui viennent à l'esprit assez facilement parce qu'on a développé ce genre de service. Et le fait que 300 000 personnes aient testé un véhicule électrique permet aussi, de réduire l'appréhension qu'ont pu avoir ou qu'ont encore les gens par rapport au véhicule électrique, sur les problèmes d'autonomie, sur les problèmes de recharge, etc. Et voir, quand on conduit un véhicule électrique, tous ses intérêts et tout le plaisir qu'on peut en avoir. D'autre part, toute l'infrastructure que l'on a mise en place est ouverte à des véhicules tiers. Et donc, on a eu BMW qui, pendant 3 ans, a fait de la publicité pour l'i3 en écrivant en bas « l'i3 se recharge sur Autolib ». Et lorsque vous achetiez une i3, vous aviez une carte de recharge sur nos stations qui était fournie par IBM. Donc ça permet aussi le développement d'une infrastructure et donc la pénétration du véhicule électrique dans les villes. Alors depuis ce succès parisien, on a déployé notre solution dans un certain nombre d'autres villes. On l'a d'abord déployé, alors on a été petit bras, on va dire, pas trop de risques. Lyon, Ça, c'était dupliqué directement de ce qui existait à Paris. Ensuite, on a été à Bordeaux. Et ensuite, on a fait un saut un petit peu plus loin. On était à Indianapolis, la ville de la voiture. Donc, on a lancé ce service en 2015. Donc là, avec une vision un petit peu différente du service, parce que Indianapolis, c'est une ville typiquement américaine, donc très étendue. Donc à Paris, on a une couverture très dense. Aux États-Unis, on a plutôt une couverture vers des points des points de focus des utilisateurs, que sont les universités, que sont le centre-ville, que sont le convention center, l'aéroport, etc. Et puis, on a donc repris en 2014 l'ensemble des points de charge de la ville de Londres pour développer un service qui est juste un service de recharge dans un premier temps. Et on lance l'autopartage à Londres cette année. Et on a aussi lancé en 2016 le même service à Turin en Italie, pour lequel aujourd'hui on a 200 voitures. Et ce qui est intéressant, ce dont nous sommes assez fiers, c'est d'avoir gagné un projet à Singapour, parce que donc Singapour, c'est une ville-État qui a lancé un appel d'offres en fin 2014 pour un projet de véhicule électrique en autopartage pour 1000 voitures et 2000 stations. Et à ce projet a eu 13 réponses. Donc, vous voyez qu'entre le projet parisien qui a démarré avec peu de réponses et un projet à Singapour, vous avez 13 réponses avec des acteurs venant du monde entier. Donc, vous avez des acteurs comme les Allemands Daimler avec Car2Go, BMW avec DriveNow, qui développent, ce sont des constructeurs qui développent eux-mêmes leurs services d'autopartage. Vous avez en Chine BYD qui fait de même. Et vous aviez aussi des gens comme Renault qui étaient adossés à d'autres sociétés. Donc tous ces gens ont répondu à ce projet à Singapour. Et nous avons donc gagné ce projet avec un démarrage cette année, avec 50 stations et une centaine de véhicules électriques. Singapour, c'est intéressant parce que au-delà du service d'autopartage, c'est une ville qui essaie de regarder les problèmes dans la globalité au niveau de l'énergie. Ils ont du soleil, mais peu de surface, donc peu de surface pour avoir des panneaux solaires. Ils n'ont pas de ressources naturelles, ils n'ont pas d'éolien, il n'y a pas de vent. Donc chaque kilowattheure est regardé dans son utilisation de façon très, très, très importante. Et le nombre de véhicules, par exemple, à Singapour est limité à 10% de la population. En France, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 50% de la population. Donc on a un véhicule pour deux en France. Et aux États-Unis, c'est un véhicule pour un. Ouais. À Singapour, c'est un véhicule pour 10. Donc vous n'avez pas de problème de mobilité à Singapour parce qu'il y a des transports en commun, parce que vous avez un nombre de véhicules limité. Mais aujourd'hui, le service d'autopartage qu'il souhaite, c'est de permettre aussi aux gens, de temps en temps, en complément des transports en commun, d'avoir la possibilité d'utiliser un véhicule. Donc c'est un projet assez emblématique parce qu'il est assez global. Et l'objectif de Singapour, ce n'est pas de faire un duplicata de ce qui existe à Paris, c'est d'avoir une plateforme de développement et c'est d'aller vers le véhicule connecté. C'est d'aller vers la possibilité, par exemple, de stationner son véhicule de façon automatique sur des chargeurs par induction, par exemple. Aujourd'hui, en effet, pour nos utilisateurs, il faut sortir de la voiture, il faut connecter, etc., déconnecter. Donc si on avait un système automatique pour se positionner sur les chargeurs induction, on éviterait ce genre d'ennui à nos utilisateurs. Enfin, ce n'est pas un gros ennui, mais enfin, bon, on va leur simplifier la vie de plus en plus. Et donc aller vers ces différentes fonctions intégrées à ce type de service est quelque chose qui est fondamental pour ce projet-là. Voilà pour ce qui est de l'automobile et de l'autopartage. Donc je vais dire quelques mots sur les bus. On a développé donc un premier bus électrique. Un premier bus électrique avec la société Gruau, qui était un bus de 6 mètres. C'est un bus plutôt de centre-ville, et on l'a développé avec pas mal de résultats en termes commerciaux. Et je vous en donne ici quelques exemples. Le premier que vous voyez à votre gauche, c'est la Fondation Louis Vuitton. Je vous recommande d'aller à la Fondation Louis Vuitton, c'est un endroit magnifique. Et en ce moment, l'exposition de Chouquine est superbe, mais elle finit bientôt. Et donc, on opère le service de bus électrique qui va de l'étoile jusqu'à la fondation. Donc, on opère 100% de ce service de bus avec des petits bus électriques en continu. Vous le voyez à côté à Rome, et puis vous le voyez tout en bas à droite à Angkor, au Cambodge, sur le site des temples d'Angkor. Vous avez un problème de pollution sur les sites des temples d'Angkor, et parce qu'il y a énormément de touristes qui aujourd'hui y vont, avec l'avènement des touristes chinois, ils ont multiplié par deux le nombre de visiteurs. Donc ils sont passés de 3 millions à 6 millions, donc avec tous les problèmes inhérents au transport. Donc ils souhaitent mettre en place des navettes de type électrique pour limiter la pollution sur les sites. Et vous voyez les bus que l'on a développés là-bas. Celui qui est au milieu, en bas, c'est un bus qui fonctionne en Afrique, à Abidjan. On a développé une solution globale à Abidjan et Yaoundé sur le campus de l'université pour transporter les étudiants. Donc ce bus est rechargé la nuit par une station qui a elle-même des batteries et des panneaux solaires qui se chargent donc de jour, et la nuit, nous rechargeons les bus. Donc on est complètement autonome, on va vraiment du soleil au bus ou du soleil à la voiture, comme vous voulez. Donc c'est complètement propre. Et puis après, c'est d'autres applications pour d'autres clients. Fort de ce succès, on a développé un bus de 12 mètres. Les bus de 12 mètres, c'est le gros des bus. Vous avez, sur les 4500 bus parisiens, vous avez à peu près 4000 bus qui sont des bus de 12 mètres. Les autres, les plus grands, c'est des bus de 18 mètres, et vous avez quelques petits bus pour le grand centre-ville. Donc l'objectif de Paris, c'est de remplacer ces 4000 bus aujourd'hui diesel par des bus électriques. Donc la première ligne 100% électrique fonctionne aujourd'hui. C'est la ligne 341 qui va de la porte de Clignancourt jusqu'à Étoile. Donc si vous voulez tester notre bus électrique, ben, vous pouvez prendre cette ligne. Et donc nous avons livré 23 bus électriques. Alors ces bus sont équipés d'une capacité de 250 kWh à peu près. Ils peuvent embarquer jusqu'à 100 personnes et ont une autonomie de 250 km. Pour vous donner un ordre de grandeur. Et nous répondons à d'autres appels d'offres, parce qu'il y a de nombreux appels d'offres en Europe pour le bus électrique. Alors, on a développé aussi un autre procédé, je vais vous le montrer ici, qui a été installé sur les Champs-Élysées entre novembre 2015 et avril 2016. C'est un système qui était à base, cette fois-ci, non pas de batterie, mais de supercapacité. Alors, le concept est simple. Vous avez des supercapacités dans le tram et vous avez des supercapacités dans la station. Lorsque le tram arrive à la station, il se connecte avec le système que vous voyez sur l'image et vous rechargez les supercapacités en 20 secondes pendant que les gens montent et descendent. Donc la supercapacité, c'est un système, comme je vous l'ai dit, qui est un système carbone-carbone, donc qui est essentiellement électronique, qui se recharge beaucoup plus rapidement qu'une batterie et qui fait des millions de cycles. Donc vous rechargez. Alors en revanche, vous avez une énergie qui ne vous permet que d'aller que jusqu'à la station suivante. En gros, vous avez une autonomie de 2 km pour un système de ce type-là. Donc on avait démontré ce système sur les Champs-Élysées avec 9 stations pour monter et descendre de la Concorde à l'Arc de Triomphe. Et il a tourné pendant 4 mois sans aucun incident. Vous avez donc des supercapacités dans la station. Vous pouvez recharger ces supercapacités sur une ligne normale. Et sur une ligne, je veux dire, de puissance normale, parce que là, vous avez un certain temps pour les recharger, le passage entre deux trams. Et puis lorsque le tram arrive, vous connectez directement au tram et vous le rechargez en 20 secondes pendant que les gens montent et descendent. Et vous repartez. Donc vous avez le concept, c'est une ligne qui peut tourner 24 heures sur 24. En revanche, qui est une ligne dédiée, contrairement à un bus, qui a une installation très simple. Donc on va installer cette première ligne, la première du genre, on va l'installer, la tester à Singapour, là aussi, puisqu'ils ont choisi de faire un premier test avec cette ligne de ce type-là. On a utilisé aussi ce concept dans un bateau. Il y a une navette qui traverse la rade de l'Orient, et donc elle est sur capacité, sur supercapacité, donc elle a une autonomie suffisante pour faire l'aller-retour, et là, elle se recharge, cette fois-ci en plusieurs minutes, parce que là, vous avez une ligne de puissance, à un des terminus. Donc c'est un système propre à base un petit peu différent. Vous savez aussi que les supercapacités sont utilisées dans des systèmes tels que les téléphériques pour faire de la récupération d'énergie lorsque le téléphérique redescend, et donc refournir cette énergie au téléphérique lorsqu'il remonte. Et lorsqu'on fait aussi cela sur des trams, la récupération d'énergie au freinage d'un tram pour soit augmenter le nombre de trams sur la ligne, soit avoir une puissance demandée sur la ligne qui est inférieure. Donc c'est des composants qui sont assez intéressants. Dans les applications stationnaires, on a développé toute une gamme de projets, dont certains dont je vous ai déjà parlé, ceux qui sont à droite, je vous en ai déjà parlé. Et puis, on a développé aussi donc, des solutions pour des bâtiments autosuffisants hors réseau. Et je vous montrerai une application en Afrique avec un petit film. Et on a aussi donc, développé des solutions pour de l'énergie renouvelable et pour optimiser à la fois le filtrage de l'énergie, donc pour avoir une meilleure qualité, et deuxièmement, pour pouvoir en stocker une partie et la restituer lorsque vous aurez des pics de puissance. On a fait cela à travers trois types de solutions, donc la solution de stockage packagé pour le particulier ou pour les entreprises. C'est une solution qui fait quelques kilowattheures. C'est l'augmentation de l'autoconsommation, c'est l'optimisation de la facture énergétique. Bon, c'est pas... Je dirais qu'en France, on a des difficultés pour que financièrement, on puisse démontrer cette utilité-là, parce qu'on a un réseau qui est extrêmement performant et que le delta de prix entre le kilowattheure en heure creuse ou le kilowattheure en heure pleine est relativement faible. Mais vous avez des pays comme le Japon, où vous avez des coupures qui sont importantes, des pays comme la Californie ou l'Afrique du Sud qui ont aussi des problèmes au niveau des réseaux, avec des coupures importantes. Donc ce type de solution y est développé. Ensuite, on a donc développé une solution qui va de 180 kWh à 2 MWh, qui est lissage de l'intermittence des énergies renouvelables et la gestion intelligente de l'équilibre électrique, effacement et autoconsommation. On a installé ça dans un certain nombre de régions. Et puis, le dernier point, je vous ai dit qu'on avait beaucoup d'activités en Afrique. On a développé en Afrique, vous savez qu'il y a en Afrique plus de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, nous, on se plaint quand on n'a pas accès à l'électricité quelques minutes dans la journée, mais là-bas, c'est pas l'électricité de la journée. Donc, on a développé des zones avec des panneaux solaires et des batteries pour permettre... des activités, donc qui soient des activités économiques, des activités culturelles et sportives. Et donc j'ai un petit film sur le sujet à vous montrer, qui dure 3-4 minutes, et j'espère qu'il va pouvoir...
La Blue Zone s'inscrit dans un projet ambitieux du groupe Bolloré, qui consiste à réduire la fracture énergétique en installant plusieurs lieux de vie autonomes en énergie. C'est une solution totalement innovante, développée par Blue Solutions. On peut désormais stocker l'énergie solaire obtenue par panneaux photovoltaïques et produire ainsi une électricité permanente, gratuite et écologique. Des containers remplis de batteries LMP, lithium métal polymère, allant de 180 kWh à 1 MWh, stockent l'énergie produite par le soleil et la restituent de jour comme de nuit. Dans des zones dépourvues de réseaux électriques ou victimes de pannes récurrentes rendant difficile toute exploitation, cette solution prend sens. Au lieu d'utiliser des groupes électrogènes coûteux, bruyants, polluants, elle permet de produire une électricité écologique, gratuite, moderne et totalement autonome. L'installation de Blue Zone allant de 2 à 4 hectares permet de créer des espaces de vie où tout devient possible. L'éclairage, l'accès à l'eau potable, à Internet, la possibilité de se soigner, d'apprendre, de se divertir et de se développer économiquement. Des Blue Zones sont déjà présentes et opérationnelles en Guinée à Kaloum depuis le 12 juin dernier et à Kakavili au Togo depuis le 26 avril. D'autres zones bleues sont en cours de finalisation au Bénin et au Niger. Ces espaces seront reliés entre eux par une ligne de chemin de fer appelée Blue Line. Avec Blue Zone, Bolloré fait bien plus que stocker et distribuer l'énergie fournie par le soleil. Il la transforme en progrès et en développement. Blue Zone, une solution pour construire l'avenir.
Voilà. Bon. Merci. Je vais m'arrêter là. Bon, vous avez des questions.